m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui, avec courtoisie.
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir chers auditeurs, bienvenue au Radio Courtoisie du jeudi, au Restons Courtois, pardon, du jeudi, diffusé tous les jours sur Radio Courtoisie. Et qui dit Restons Courtois du jeudi, dit Restons Courtois de Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault et je suis aujourd'hui en plateau avec énormément de monde. Thomas Morel qui vient de s'asseoir à l'instant. Bonsoir,
bonsoir
Thomas. Voilà, et voilà, Paris est resté sous le joug socialiste, il est toujours aussi difficile de se déplacer dans Paris, même en vélo Thomas visiblement. À moins que vous étiez tout simplement en retard, après c'est...
Je ne dirai pas.
On dira que c'est à cause d'Emmanuel Grégoire. François Devoyer, éditorialiste et bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Bonsoir François.
Et miraculeusement à l'heure.
Bravo, félicitations. Étienne Darjac, qu'on ne présente plus dans cette émission puisqu'il nous fait l'honneur d'être souvent là le jeudi lui aussi. Et nous accueillons Arnaud Folk, directeur de la rédaction du hors-série de Valeurs Actuelles et qui sort un nouvel hors-série sur l'Algérie, titré tout simplement « Quand l'Algérie était française ».
Bonsoir Marc.
Évidemment, chers auditeurs, cette émission est aussi la vôtre. Vous pouvez réagir par courriel à l'adresse courtoisie@rc.fr. Vous pouvez aussi réagir par téléphone au 01 46 51 00 85. Après avoir parlé du hors-série de Valeurs Actuelles sur l'Algérie, nous allons parler, évidemment, nous allons faire un bilan en grand des élections municipales. Qui a gagné, qui a perdu? Question extrêmement simple, mais réponse évidemment beaucoup plus complexe. Et nous recevrons à 19h le président de Debout la France et très récemment réélu brillamment au premier tour maire de hier, Nicolas Dupont-Aignan. En attendant, Arnaud Folk, parlons de l'Algérie, de cette époque pas si lointaine où l'Algérie était française. Arnaud Folk, pourquoi finalement avoir consacré sur série de Valeurs Actuelles à ce sujet, tout simplement?
Bah écoutez, je lisais tout à l'heure, là, en vous attendant, puisque moi j'étais pour le coup un petit peu en avance, que la force de Radio Courtoisie, c'était d'informer là où les autres taisent la vérité. Et bah écoutez, on a voulu faire exactement la même chose sur l'Algérie française. Donc effectivement, 60 ans ont passé, et pour autant, les mêmes mensonges perdurent. Et on a travaillé pendant... dire 6 mois entiers, avec beaucoup d'aide, beaucoup de documents, beaucoup de témoignages sur un sujet que l'on croit éculé et qui réserve toujours énormément de surprises dans ces temps dans lesquels on pense que tout a été dit. Depuis la sortie du magazine, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, de gens qui se déchaînent un peu. Ben écoutez, je leur conseille de lire le hors-série dans lequel, outre des documents tout à fait exclusifs, j'ai passé 2 jours à Perpignan, au centre de documentation des Français d'Algérie, à récupérer une centaine de documents jamais publiés. Et nous avons beaucoup travaillé sur les faits, sur les chiffres, sur les témoignages, pour rendre quelque chose de très vivant sur un sujet ma foi très polémique et très tabou.
Oui, il est vrai, le sujet est tabou. On se rappelle d'ailleurs, nos auditeurs s'en rappellent peut-être, en 2022, avec la nouvelle Assemblée nationale, il est de coutume avant l'élection du président de l'Assemblée nationale que le doyen des députés s'exprime. Il se trouve que le doyen cette année-là, c'était José González, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, lui-même pied noir, et qui a donné à la tribune un long témoignage justement sur son passé de pied noir et sur un petit épisode en fait de nostalgérie, comme aurait dit Jean Pax Mayfray. C'était un très beau discours d'ailleurs, très beau, très nostalgique et sans aucun désir revanchard. Et on a vu les foudres qu'il s'est pris après par la France Insoumise et certains membres des écologistes. Comment expliquer justement que ce passif sur l'Algérie française ne soit politiquement en tout cas toujours pas refermé?
Alors d'abord un mot sur ce député, il faut se souvenir qu'il en avait presque les larmes aux yeux.
Absolument.
Il était confronté à beaucoup de haine et lui témoignait d'une émotion vraiment très très puissante, comme la plupart des pieds noirs. Pourquoi la cicatrice existe toujours? Ben écoutez, pour une raison très simple, la suite sera sans doute un peu plus complexe, on en parlera tout à l'heure, mais la raison très simple, c'est qu'on a dénier aux pieds noirs leur souffrance et la vérité. Quand on parle aujourd'hui de crimes contre l'humanité, tant le gouvernement algérien que Emmanuel Macron récemment, en définitive, on a affaire en Algérie à un crime contre la vérité. Et donc, il est toujours temps d'aller chercher et de dire cette vérité. L'histoire, vous le savez, est si souvent falsifiée. Et nous avons voulu présenter une histoire vraie, quitte effectivement à déclencher un certain nombre de polémiques. Vous en parliez tout à l'heure, on va peut-être y revenir. Le magazine, les 132 pages du magazine, sont débutées par une très longue interview de 8 pages de Boualem Sansal, qui, ma foi, sur la question, et sur beaucoup d'autres d'ailleurs, a beaucoup plus de courage qu'un certain nombre de responsables politiques français, ou évidemment que les réseaux médiatiques.
Oui, Boualem Sansal, justement, dans cette interview, revient de manière assez dépassionnée, de manière assez simple, d'ailleurs, sur ce qu'est le pouvoir algérien, sur ce qu'est justement cet héritage. Boualem Sansal, en tant que franco-algérien, à son point de vue, c'est quoi un petit peu la thèse développée, justement, dans cette interview, Arnaud?
Ben, Boualem Sansal, il y a déjà une phrase qui est merveilleuse, dans laquelle il dit, moi, je suis un Français biologique. Je suis Français. On lui a redonné la nationalité française en 2024 et lui dit, mais moi non, il faut arrêter de dire, Boualem Sansal a été naturalisé. Non, non, j'ai retrouvé ma nationalité parce que je suis français. Il a une fierté d'être français, que n'ont pas effectivement tous ceux qui aujourd'hui polémiquent sur effectivement le fait de revenir sur cette période si tabou.
Et en travaillant sur ce, enfin en dirigeant les travaux sur ce hors-série, Arnaud, est-ce que vous êtes justement rendu compte qu'on pouvait effectivement traiter de ce sujet de manière dépassionnée avec on va dire, alors vous êtes journaliste, hein, vous n'êtes pas historien, mais avec quand même le travail dépassionné et neutre de l'historien?
Mais non seulement dépassionné, mais je dois dire même apaisé notre regard à nous. D'abord, on ne traite pas dans ce numéro de la guerre d'Algérie. C'est un choix. Nos hors-séries de Valeurs Actuelles l'ont parfois traité. On pourra y revenir avec des documents extrêmement chocs sur les massacres monstrueux auxquels les Français d'Algérie et évidemment les Harkis, que les Français d'Algérie et les Harkis ont eu à subir. En l'occurrence, là, il s'agissait de revenir sur les 132 années de présence française en Algérie, qui ont été 132 années, Boualem Sansal le dit, qui ont été un début de paradis pour l'Algérie, qui était à l'époque un département français. Ce n'était pas une colonie comme les autres. Donc, vraiment, ce qu'on a voulu, si vous voulez, c'est précisément, comme vous le dites, de manière relativement dépassionnée, mais en assumant clairement les faits, c'est dire une vérité que les autres ne disent pas. J'ajoute qu'il y a effectivement dans ce magazine, il y a l'interview de Boualem Sansal, mais il y a aussi une très longue interview de 6 pages de Jean-Pax Meffray, extrêmement émouvante. Autant je ne connaissais pas Boualem Sansal, on s'est tombé dans les bras à la fin de l'entretien, en ayant conscience qu'on a vécu un moment assez fort, parce qu'il s'est beaucoup livré, etc. Jean-Pax Meffray, bien sûr, je le connaissais, mais son entretien est d'une justesse, d'une douceur. Il n'y a pas d'esprit de revanche. Malheureusement, l'histoire est passée par là. Mais en revanche, il y a encore quelque chose que l'on peut sauver, c'est effectivement la vérité et l'honneur des pieds noirs et de leurs familles qui se sont battues sang et eau pour une terre qu'ils ont passionnément aimée.
C'est, je ne sais pas si évidemment si mes invités autour de la table ont peut-être des questions ou des remarques à faire sur la question algérienne. Thomas Morel.
Oui, c'est pas la première fois que dans Valeurs Actuelles on traite de l'Algérie. On vous l'avait déjà dit tout à l'heure. On a eu également un hors-série entier il y a quelques années. On en parle régulièrement dans tous ceux qui s'intéressent effectivement à l'histoire secrète, à ces choses qu'on essaie d'éluder. Comme vous le dites, il y a beaucoup de gens qui ont une vision dépassionnée de ça, mais il y a aussi beaucoup de gens pour qui c'est un sujet absolument radioactif. Est-ce que c'est essentiellement une problématique d'instrumentalisation et à la fois d'une partie de la vie politique française et une partie peut-être de la classe politique algérienne qui explique que ce soit aussi difficile de parler de ces sujets-là encore aujourd'hui, alors qu'on voit les lecteurs vraiment se passionner pour ça?
Mais je crois qu'il y a comme le dit Boualem Sansal d'ailleurs, il y a un véritable mensonge d'État. tant de la part de l'Algérie que de la part de la France. De la part d'Algérie, 60 ans après, c'était le cas depuis 60 ans, on explique que la France devait partir parce que c'était des bourreaux ignobles. Et de la part de la France, le discours est de dire « il fallait qu'on parte parce qu'on n'avait rien à faire là-bas ». C'est totalement faux. Lorsque la France a débarqué en Algérie en 1830, pardonnez-moi de revenir là pour le coup un peu en arrière, ce n'était rien, comme l'a dit écrit Jean Sévilla, c'était une terre qui n'existait pas, enfin il existait une terre, personne à l'intérieur, aucun pays, c'est la France qui a inventé ce nom. Quand
c'était une vague province de l'Empire ottoman en réalité, c'était
oui,
une sorte
c'est
de
ça,
protectorat
c'est ça,
ottoman.
C'est ça. Absolument, c'était une espèce d'empire de monarchie ottomane dans lequel effectivement par exemple les juifs étaient considérés plus bas que les esclaves hein, dans lequel effectivement on trouvait à peine de quoi nourrir sa population. Il faut savoir que dans la région de Boufarik dans la plaine de la Mitidja au cours des premières années 90% des colons sont morts des épidémies des attaques de tribus rebelles, des conditions de vie absolument horribles. Mais ce qui s'est passé là-bas et ce qu'on a vraiment voulu expliquer, c'est une histoire d'amour assez improbable entre des Français et des Européens. Les Français ne représentaient qu'un tiers hein, de la population des
Il y a beaucoup d'Espagnols, beaucoup
bien
de,
sûr, ouais. d'Espagnols, d'Italiens, ouais. de Maltais, d'Allemands aussi, de Suisses. D'ailleurs, les villages suisses, on en parle, c'est quelque chose de très particulier, c'est très suisse. Et ils se sont tous mélangés pour créer effectivement cette magnifique population pied-noir qui a réalisé des choses mais absolument exceptionnelles et qu'on a contraint de partir un jour en leur disant en plus « vous êtes coupables ». Ils n'étaient coupables de rien, c'était à la base des gens extraordinairement modestes. Je vais peut-être choquer un certain nombre d'auditeurs, mais peut-être même à l'origine, s'agissait-il plutôt même de gens un peu de gauche, qui étaient plutôt contre la monarchie, sous Charles X, sous Louis-Philippe, et qui sont venus avec un désir vraiment de nouvelles vies, de nouvelles terres, de nouvelles chances.
Une espèce de patrie idéale, un petit peu, justement.
Tout à fait. Et de nouvelles civilisations dans lesquelles tout le monde vivait une forme d'harmonie qui aujourd'hui paraît effectivement bien loin.
Thomas Morel.
Oui, une autre question. C'est donc pas la première fois que Valeurs Actuelles consacre un hors-série à l'Algérie française plus précisément. Qu'est-ce qui, d'après vous, avait manqué au précédent qui vous a poussé en fait, à vous dire « il faut qu'on y retourne, il faut qu'on se repenche sur le sujet une nouvelle fois »
Mais jusqu'à présent, nous n'avions jamais traité la question des 132 années de présence française. On a, comme beaucoup de gens, quand on parle de l'Algérie, on pense généralement à la guerre d'Algérie. Eh bien, la guerre d'Algérie, c'est 2 années, 3 années, 4 années, sur 132 années. Nous nous sommes interrogés absolument à tout le reste. Et voyez précisément, on parlait tout à l'heure un petit peu de chiffres, quand on dit, quand on imagine que notre président de la République a pu parler de crimes contre l'humanité alors que la population a été multipliée par 6, que le taux de mortalité infantile a été divisé des 2/3, que dans les écoles d'Algérie, dans les écoles primaires publiques d'Algérie en 1962, il y avait 87% de petits musulmans et de petites musulmanes. Je tiens aussi effectivement à le préciser. On se dit que si la France avait voulu accomplir un crime contre l'humanité là-bas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'y est quand même très mal pris.
Et donc tout un hors-série justement pour parler de ces 132 années d'Algérie française. Alors il y a également beaucoup de portraits effectivement des conquérants, aussi des opposants. Il y a un portrait de l'émir Abdelkader, il y a aussi un portrait du duc d'Aumale. C'est, vous avez quand même réussi à parler justement des deux côtés pendant ces 132 ans, parce que cette conquête de l'Algérie, même si les bénéfices apportés au territoire algérien par la France ont été réels, ça a commencé par une guerre de conquête... On va dire assez sanglante quand même, Arnaud Folsan. Oui, tout avait en tout cas partie des reproches qui sont faits régulièrement à cette colonisation française. Il y a effectivement la guerre de décolonisation, mais on nous reproche surtout la guerre de colonisation qui a donné lieu à des bains de sang.
Bah écoutez, nulle part dans le monde, aucune guerre n'a été sanglante d'un côté comme de l'autre. Il y a eu 400 000 morts au total pendant les années de conquête, on va dire les 30 ou 40 premières années de conquête, relativement équilibré des deux côtés, un peu plus effectivement du côté algérien. Mais je veux dire, là vous parliez d'Abdelkader. Abdelkader s'est rallié à Napoléon III.
Absolument.
Voilà, le fameux Youssouf dont on raconte la vie était un esclave qui est devenu un général de l'armée française. Non, l'Algérie française a donné la chance tant aux Français et européens d'Algérie, aux populations qui n'étaient pas musulmanes en Algérie, mais aussi, je le répète, aux musulmans eux-mêmes, bien plus qu'on ne le croit. Il faut quand même savoir que ce pays, enfin, qui sait aujourd'hui que l'aéroport d'Alger était le quatrième du monde, que l'Algérie était le premier producteur, exportateur de fruits et légumes de toute l'Afrique. Enfin, voilà, c'est cette forme de, à la fois, moi, vous voyez, j'en parle de manière un peu passionnée, mais c'est extraordinairement injuste ce qui s'est passé vis-à-vis des pieds noirs. Et j'en profite pour dire un tout petit mot sur Suzy Simon-Niquez, qui est la présidente du Cercle Algérianiste, qui est la première association pieds noirs de France, avec lequel, effectivement, on a fait cet entretien croisé avec Boualem Sansal au début. Suzy, à plusieurs reprises, fond en larmes, parce qu'effectivement, ses souvenirs, ils sont très émouvants, ça la touche, ses amis qu'elle a laissés, qui étaient comme des sœurs, sa maman était professeure là-bas, elle était la seule élève d'origine européenne dans la classe de sa maman. Et si vous voulez, c'est tout ce, voilà, 132 pages, des centaines de photos inédites, c'est ça qu'on essaie de faire passer. Il est jamais trop tard. Jean-Pax Méfray se montre un peu pessimiste sur la mémoire des Français d'Algérie, considérant que c'est vrai, les Français s'y intéressent moins, du fait des médias, du temps qui passe ou autre. Et ben écoutez, nous avons tâché, nous, comme le fait Radio Courtoisie sur beaucoup de domaines, de nous y plonger et de dire non, n'oubliez pas ce qui a été fait en Algérie, et ce qui s'est fait en Algérie, c'est une part aussi de la fierté française.
Beaucoup de vérités historiques dans ce hors-série de Valeurs Actuelles qu'on vous encourage à vous procurer. François Devoyer, vous leviez la main pour une dernière remarque peut-être.
Vous en parlez avec une telle passion. Vous-même, avez-vous des origines pieds noirs?
Non. J'ai découvert en tant rédacteur en chef. J'étais directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles il y a un certain nombre de temps. Et j'avais souhaité qu'on fasse un article, une sur les pieds noirs, et la petite histoire veut que je l'avais demandé à un journaliste qui était tombé malade, et puis après un pigiste n'avait pas pu le faire. Je m'y suis plongé, j'ai découvert des hommes et des femmes absolument exceptionnels, pour lesquels j'ai un respect absolument inouï et auxquels vraiment je tenais vraiment par l'intermédiaire de ce numéro à rendre hommage, et je souhaite que les Français leur rendent bien davantage hommage à l'heure où il y en a de moins en moins.
Et c'était une part importante de l'histoire de France. C'était une histoire certes sanglante, mais grâce à vous, on sait que ça fut aussi une belle histoire avec des prouesses réalisées par tout un peuple. Merci beaucoup Arnaud Fock d'avoir été avec nous pour parler de ce hors-série de Valeurs Actuelles consacrée aux 132 années de présence française en Algérie. Merci à vous. On revient vers vous tout de suite, chers auditeurs, mais tout d'abord un petit message de votre radio.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois. Marc Hainaut.
Et bonsoir à nouveau, chers auditeurs, toujours en direct de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Étienne Darjac, éditorialiste, François Devoyer, éditorialiste aussi, et Thomas Morel, journaliste chez Valeurs Actuelles au service Économie Société. Vous couvrez beaucoup de sujets à vous tout seul, cher Thomas. On va parler évidemment des élections municipales, puisque le second tour du scrutin a eu lieu. Ça ne vous a pas du tout échappé, chers auditeurs. Beaucoup d'enseignements à tirer justement de ce scrutin. Tout d'abord, on va commencer par là, puisque c'était une des inconnues du premier tour, Le Havre. Édouard Philippe, je suis sûr que c'est le potentiel candidat à l'élection présidentielle préféré de nos auditeurs. Édouard Philippe qui a réussi à garder la mairie du Havre, qui était une condition sine qua non à une éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Il est passé au journal télévisé de France 2 à 20h pour expliquer qu'effectivement il était certain d'être candidat, mais on n'en sait pas beaucoup plus, Étienne Darjac.
Oui, en tout cas, moi je serais la vraie, je serais peut-être un poil vexé, parce que je sais pas si vous avez écouté, alors non pas son France 2, mais le discours qu'il a fait à son QG de, enfin, je crois que, à son QG de campagne à la mairie du Havre, d'ailleurs, le soir du second tour. Il a fait clairement un discours de candidat à la présidentielle, il a quasiment Absolument. Pas parlé du Havre.
Non.
Mais vraiment, je sais même pas s'il l'a mentionné une seule fois, quoi. Alors, il a fait un discours de candidat présidentiel de centriste mou, hein, c'est-à-dire avec des très grandes valeurs très émouvantes.
C'est l'éternel Alain Juppé qui revient.
Exactement.
Il le faut parce qu'il faut cette candidature centriste.
C'est le juppéisme intégral. donc, effectivement, oui, on a un peu l'impression que cette élection municipale n'était que un ticket de validation. C'est un peu sa primaire qui se fait à lui tout seul, quoi. voilà, donc dans la tête d'Edouard Philippe, ce sont les Havrais qui décideront des futurs candidats à la présidentielle. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur Édouard Philippe. On n'a absolument rien pour l'instant.
À part, oui, un positionnement, quoi. On va dire un espace politique visé, quoi, en fait.
Oui, politique visé, mais qui va devoir se disputer avec des adversaires qui sont quand même coriaces. Je pense à Gérald Darmanin, je pense à Gabriel Attal.
Vous avez Bertrand. vous aviez dit coriace.
Je ne pensais pas à lui, exactement.
Excusez-moi.
Donc, bon, écoutez, il fait le coup de celui qui se lance très en avance, comme Alain Juppé par ailleurs. On lui souhaite la même carrière.
C'est votre point de vue, Étienne Darjac. N'hésitez pas à réagir à l'antenne, chers auditeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec Étienne Darjac? Est-ce que c'est à souhaiter ou non Thomas Morel sur Édouard Philippe?
Oui, par ailleurs, il y a quelque chose, c'est que Édouard Philippe et beaucoup de médias ont quand même particulièrement dramatisé l'élection au Havre en expliquant que c'était très dangereux, qu'il était très probable qu'il soit jamais élu. En réalité, il y a eu un seul sondage qu'il donnait au coude à coude et encore après des retraitements, etc. Mais la réalité, c'est que ça n'a jamais été très très difficile et il ne s'est jamais vraiment fait beaucoup de sang d'encre pour son élection au Havre.
François Devoyer,
il fait tout de même moins de 50% finalement, avec une participation assez misérable. C'est pas glorieux. On sent qu'il, très mollement, avec la bravoure et le panache qui le caractérise, il cherche à obtenir une seconde place peu brillante mais efficace pour les présidentielles de 2027. Mais on a le sentiment que ce qui lui manque, c'est le virus de la politique. Il n'a pas cette rage au fond des yeux. Il n'y pense pas en se rasant le matin. D'ailleurs, il n'a plus besoin de se raser. Mais effectivement, on a l'impression d'un candidat un peu fantôme, quoi, qui est là parce que finalement, il y a une place à prendre, mais qui n'a pas envie de se battre pour la conserver.
Oui, puis en fait, c'est surtout...
Étienne, vous n'allez pas faire une blague sur les cheveux à tout hasard.
Non, je ne me permettrai pas. Non, mais c'est vrai que le problème qu'il a aussi, c'est que ça fait tellement longtemps qu'il est là. Et en fait, c'est depuis son départ de Matignon, donc il remonte quand même en 2018 ou 2019, oui. Je crois. Ça fait depuis 2019 qu'on dit que c'est l'héritier du macronisme. 2020.
Mais il était au début de la crise Covid. Ouais. La crise Covid était en 2020, donc il a dû partir effectivement à la fin de l'année 2020.
Donc ça fait 6 ans en fait que le mec traîne sa réputation d'héritier du macronisme. Bon, forcément, c'est un peu usé. Il a eu le temps de s'ennuyer, je pense. Et nous aussi, surtout.
Mais
on se demande un peu comment est-ce qu'il va réussir à relancer un peu la dynamique. Il a longtemps été le macroniste le plus populaire des enquêtes d'opinion, pour ce que ça vaut. Je crois que c'est plus le cas maintenant, ou en tout cas beaucoup moins nettement. Bon, on verra s'il arrive à trouver l'angle qui permettra de ramener l'enthousiasme dans l'électorat macroniste qui tire sévèrement quand même depuis quelques mois.
C'est justement, alors c'est l'électorat macroniste, mais pas tant que ça, mais ce que vous dites, c'est intéressant, c'est vrai, François Devoyer, ou Thomas Morel d'ailleurs, il est parti de Matignon en 2020. Il est, bon, certes, président de Horizon, mais il n'a plus de responsabilité ministérielle ou gouvernementale ou même véritablement politique. Enfin, Horizon, c'est un petit parti de centre-droit qui n'est qu'une composante d'un socle commun lui-même minoritaire. C'est vrai qu'il n'a rien fait en 6 ans, en quelque sorte, Édouard Philippe.
Non, mais alors, il n'a rien fait, mais il a quand même réussi à acquérir une espèce d'espace politique. Pour une raison très étrange, qui est que le macronisme, après avoir essayé de tuer à peu près tout ce qui existait sur l'échiquier politique à droite, à gauche, a laissé en son propre sein émerger Horizon, des petits mouvements, des trucs comme ça. Et ça a permis non pas de faire beaucoup de choses au Parti Horizon et à Édouard Philippe, mais en revanche, ça lui a donné de la visibilité. Ils ont conclu des alliances, ils ont des députés, ils ont... Enfin, tout ceci leur donne pas forcément beaucoup de pouvoir, mais en tout cas, la possibilité d'exister médiatiquement.
Oui, c'est ça. Alors... C'est vrai que c'était un petit peu le rôle de Horizon, au moins au début du deuxième quinquennat. C'était un peu une espèce de sas entre Renaissance et LR, François Devoyer.
Oui, alors il n'a pas réussi vraiment
une sorte de très transfuge,
efficacement
en fait,
à occuper l'espace, mais il y a tout de même deux choses. Souvenez-vous qu'il a vraiment trahi en quelque sorte le macronisme quand il a appelé Emmanuel Macron, me semble-t-il, à se retirer. À démissionner. Alors je crois que la formule c'était fait d'une manière un peu plus fine, mais en gros voilà, il fallait que Macron organise de nouvelles élections avant l'échéance de 2027, en gros qu'il démissionne. Et puis moi je revois, c'est drôle, j'ai cette image en tête avec Édouard Philippe, c'est la façon humiliante dont Emmanuel Macron l'avait traité, je crois, quand était-ce en 2022 tout bêtement, lors de sa réélection, et il lui avait accolé la main comme ça, vraiment comme un sous-fifre, en fait, un valet. Et je m'étais dit qu'un homme qui se laisse faire ainsi n'a aucune chance de l'emporter, en tout cas ne peut le faire qu'en se faufilant, voilà, dans les trous d'air des différents médias, sondeurs ou milliardaires qui seraient intéressés par avoir une espèce de force molle face à eux. Donc, oui, c'est difficile à dire parce que par défaut, mon seul désaccord avec vous, c'est que je suis pas sûr qu'il soit nécessaire aujourd'hui de faire campagne très en amont pour parvenir au second tour.
Les campagnes de temps long, d'ailleurs, ça peut se retourner contre
Emmanuel vous. Macron l'a prouvé deux fois. Il me semble qu'il a lâché son programme trois semaines avant dans les deux cas et qu'il s'est finalement présenté très tard.
Derrière un projet, surtout, c'était pas vraiment un programme en plus.
Oui, d'ailleurs, c'était un projet extrêmement flou. Oui. Donc, je pense qu'il va jouer cette carte. Impossible de dire aujourd'hui ce qui peut se passer. Ce qui est certain, moi, je ne crois plus, je n'ai jamais cru, mais moins que jamais, je n'imagine un second tour Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, de toute façon, c'est peut-être la seule dimension connue de l'éventuelle élection présidentielle. De l'éventuel scénario du premier tour d'élection présidentielle 2027, en fait la question, mais qui a été la même en 2017 et la même en 2022, qui sera face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella, en fait, Étienne Darjac?
Absolument, et la différence, je pense, c'est que contrairement à 2022 et 2017, où c'était quand même un peu couru d'avance, en tout cas entre une, deux, voire trois options.
Oui, la question c'était qui va gagner en 2017 et 2022 face à Marine Le Pen.
Vous anticipez mon propos, donc il y a deux différences. Effectivement, la question de la victoire de l'opposant à Marine Le Pen ou Jordan Bardella n'est plus si évidente.
Oui.
Et surtout, les scores du RN, en tout cas tels qu'annoncés dans les sondages, ont encore augmenté de façon assez considérable. Ce qui fait, et c'est ce qui va rendre cette élection présidentielle très intéressante, on aura un seuil d'accession au second tour qui sera probablement très bas. Il est assez probable qu'on se retrouve avec un scénario comme en 2002 où le deuxième qualifié fait 16, 17, 18%. Alors qu'on est plutôt habitué à des 23, 24, 25%. Donc ça laisse quand même une porte ouverte assez large à, il faut le dire, un peu n'importe qui. Et ça jouera beaucoup sur la dynamique de campagne. Je pense que c'est pour ça que tout le monde va faire une campagne très courte d'ailleurs, parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de dire ici que je croyais beaucoup, hélas, en la perspective d'un second tour Bardella-Mélenchon, mais ça peut tout autant être un outsider qu'on ne connaît pas, ou François Hollande par ailleurs, ou voilà. Il peut y avoir de grosses surprises de ce point de vue-là.
Mais c'est vrai que ça pose deux questions, et d'ailleurs ça fera le lien un petit peu avec les élections municipales, mais non seulement il risque d'y avoir un ticket d'entrée au second tour très très bas, comme vous l'avez dit, ça peut être 15%, et en plus avec un taux d'abstention assez vaste qui va poser encore une fois la question de la légitimité aussi. Si vous passez au second tour à 15% des voix et que vous battez avec un Front Républicain particulièrement efficace le candidat du Rassemblement National, en fait vous êtes élu, mais au fond vous devez votre légitimité politique à pour le coup une extrême minorité d'électeurs. François Devoyer, on l'a vu, ça a posé des véritables questions au moment des élections municipale, cette fameuse abstention galopante. Est-ce que c'est peut-être un des... Ça revient à toutes les élections. Et d'ailleurs, ceux qui perdent commencent toujours par ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En disant, je tiens à dire que le premier instrument de ce scrutin, c'est l'abstention. Oui, la branlée qu'on s'est prise, c'est dans un second temps. Mais vous avez vu, il y a quand même...
Pour moi, c'est le phénomène de ces...
Si vous y connaissez en politique locale, c'est... François.
Oui, j'ai été élu conseiller municipal.
Bravo.
Bravo. D'un village, voilà.
La reconquête commence ici.
Exactement. Non, et en fait, l'abstention, je trouve, enfin, j'ai pas vu tant d'analyses que cela sur le sujet de l'abstention. Et je trouve qu'une grande partie de l'analyse de ces élections municipales 2026 est faussée par le scrutin de 2020 qui était très particulier, en plein Covid, avec justement une participation misérable.
Il fallait presque être suicidaire pour aller voter en 2020.
Et avec des résultats absurdes. C'est quand on dit les écologistes se sont fait balayer, non, la réalité c'est qu'ils n'avaient... Ils n'auraient pas dû se retrouver au pouvoir à Bordeaux, Besançon, Poitiers, que sais-je encore.
Strasbourg, Lyon.
Ils n'avaient rien à faire là. C'était une élection vraiment faussée. D'où d'ailleurs le fait, on en reparlera sans doute, que je trouve les résultats du Rassemblement national pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer.
On parlera avec Nicolas Boutin à 18h05 des résultats du Rassemblement national.
L'abstention tout de même a été de 42% là, cette fois-ci, au second tour des élections municipales. Il faut se souvenir que dans les années 70, on était encore à 25% seulement d'abstention, c'est-à-dire 3 Français sur 4 allaient voter. Il y a énormément de villes, et je pense d'ailleurs à Saint-Denis, toutes les villes racisées, où le porte-parole s'est effacé, on en parlera sans doute plus tard, mais... Ont des taux de participation très bas, ce qui me fait d'ailleurs penser que Jean-Luc Mélenchon aura du mal, pour cette raison, à passer le premier tour des élections présidentielles, même si ces gens feront républicain au second tour. Et encore en 2014, le taux d'abstention n'était que de 38%, c'est-à-dire qu'on a encore pris dans la figure 4% de taux d'abstention en plus. Je pense qu'il y a avant tout un dégoût de la vie politique et...
Non,
un sentiment
largement
partagé, que de toute façon le système, alors consciemment ou non, n'est plus réformable, et qu'une seule une table rase permettra d'espérer à nouveau dans la vie publique et la vie de la cité. Je crois, en dehors de quelques cas emblématiques de campagne réussie, on a pu le voir sans doute à Marseille, à Paris, quelques villes un peu rares malheureusement, il y a avant tout une espèce de sentiment d'abandon et de désintérêt. Il y avait un article d'ailleurs dans le Figaro passionnant sur toute cette catégorie diplômée, j'entends, là je ne parle pas de personnes qui sont à l'écart, qui ne votent que très rarement, mais de gens diplômés, éduqués, qui ne veulent plus entendre parler de politique. Je ne parle même pas de se déplacer le jour du scrutin. Ça, je pense que c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte et... Je pense d'ailleurs que les équipes des différents candidats sont déjà en train d'y travailler. Ça va avoir une influence majeure sur l'élection.
Mais alors, je pense qu'effectivement, alors là, moi, mon hypothèse, par exemple, sur le fait qu'on traite peu et qu'on parle peu de l'abstention, c'est qu'en réalité, je pense que quand on est soi-même journaliste politique, on le prend un peu mal qu'en fait, les gens s'intéressent plus à notre passion. Vous savez, il y a le côté, si vous arrivez sur un plateau de télé ou si vous devez livrer votre analyse et que vous commencez en disant, bon, de toute façon, partons déjà du principe que tout le monde s'en fout. Enfin, finalement, en fait, je pense qu'il y a un petit peu en fait. J'avoue que c'est toujours compliqué de se dire, bon, je suis le seul passionné par mon jeu, quoi, en quelque sorte. C'est terrible parce que c'est pas un jeu, bien évidemment. Mais peut-être qu'il y a peut-être aussi cette part de cynisme qui se dit, bah, peut-être que nous aussi, on veut pas voir ce désintérêt, ce désamour, parce que nous, bien évidemment, ça nous passionne, quoi.
Mais moi, je l'ai mesuré, là, justement, dans une petite commune, 1600 habitants, mais c'est fascinant, ils s'en contrefoutent, mais à un degré.
Non, mais c'est vrai.
On est sorti, c'est pas seulement le Parisien, on en a marre, les Parisiens, les grosses villes, etc. Là, c'est vraiment, ça n'existe même plus. Voilà.
Mais parce qu'il y a
éventuellement la sous-préfecture du coin, oui, peut-être, à la limite, au-delà, ça n'est plus dans le champ de vision de ces personnes.
Mais par exemple, élire un député, un sénateur, on peut comprendre que ça puisse paraître lointain et que vu ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on fait bien de s'y intéresser un petit peu.
C'est vrai que les gens ont l'occasion d'élire un sénateur, cher Marc.
Vous voyez très bien. Il voit très bien ce que je veux dire, le monsieur, il va arrêter ça tout de suite. Non, très bien. Vous avez tout à fait raison, seuls les grands électeurs peuvent dire. Et moi, alors, pour la petite anecdote, je pensais que tous les conseillers municipaux et tous les élus municipaux pouvaient lire le sénateur. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela.
Oui.
J'ai renoncé à comprendre la règle parce qu'elle est incompréhensible, objectivement. Il faut être énarque au moins. Déjà, il faut être énarque pour inventer un truc pareil, donc il faut l'être aussi pour la comprendre. Et j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, donc c'est formidable. Donc l'abstention, ça c'est fait. On va passer dans quelques instants à Nicolas Boutin, avec qui justement nous reviendrons en détail sur les chiffres du Rassemblement National. Mais surtout, ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression, là, quand on a vu les enjeux des second tours, on a l'impression que ces second tours étaient massifs. On a surtout eu l'impression que c'était des histoires de forces politiques, de partis politiques, alors qu'en réalité, les partis politiques directement concernés par les élections municipales sont très peu nombreux, et deux, les villes même concernées par des second tours, même des villes et des villages dans lesquels il y a plusieurs listes, même cela, c'est une infime minorité. Est-ce qu'on n'est pas justement avec une loupe grossissante en permanente sur le sujet, Thomas Morel? ou qui n'est absolument pas journaliste politique. Alors, et qui avait parfaitement le droit de vous en foutre.
Je dirais que, oui, effectivement, la problématique, c'est que dans toutes les petites communes, les listes ne sont pas politisées, parce qu'effectivement, comme vous disiez si bien François Devoyer, les gens sont beaucoup moins politisés. Et puis par ailleurs, à l'échelle d'une commune de 1000 ou 2000 habitants, personne n'est vraiment, il n'y a pas une ligne très politique très à droite ou très à gauche ou quoi que ce soit. Donc on s'intéresse à ça parce que c'est aussi un peu la seule mesure qu'on a. Il y a quelque chose qui est quand même très intéressant au niveau de ces élections municipales dont on a peu parlé, c'est le succès assez étonnant de beaucoup de listes issues de la société civile. C'est-à-dire que pas forcément dans les petites communes, mais à Avignon, on a un maire qui a été élu, qui n'est pas du tout ni d'un parti ni de l'autre.
Non.
Bordeaux, on a eu également la candidature de Philippe de Sertine, qui est économiste, qui est ni d'un camp ni de l'autre, qui a fait 20% au premier tour, alors que vraiment, c'était totalement inattendu. Mmh. Et ça participe aussi un peu, pas forcément d'un rejet de la vie politique, mais en tout cas, effectivement, d'un besoin de renouvellement et d'une envie de voir autre chose, d'essayer autre chose. Mmh. Qui est effectivement beaucoup, qui doit beaucoup, d'une part, au fait qu'on a vécu 10 ans de centrisme vaguement mou, vaguement une fois à droite, vaguement une fois à gauche, et qu'on a un peu une vision qui ne veut plus dire grand-chose, et qu'effectivement, tout le monde cherche un peu un nouveau souffle, quoi.
Restez avec nous, chers auditeurs, vous êtes bien dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Restez avec nous, d'abord un petit message de votre radio, et dans quelques instants nous retrouverons Nicolas Boutin, rédacteur en chef de VA Région, avec qui nous reviendrons en détail notamment sur les scores réalisés par le Rassemblement National lors de ces élections municipales. À tout de suite.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et nous sommes de retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Thomas Morel du service économie société de Valeurs Actuelles. Bonsoir Thomas, bonsoir à nouveau Thomas, et ainsi qu'avec Étienne Darjac, éditorialiste, François Devoyer, éditorialiste, et nous sommes avec Nicolas Boutin, rédacteur en chef de VA Région. Nicolas Boutin, vous avez particulièrement suivi ces élections municipales avec vos équipes disséminées un petit peu partout en France.
Bonjour Marc, effectivement on a eu une quinzaine de correspondants mobilisés un petit peu partout et on a essayé d'apporter une couverture à la fois la plus complète et la plus intéressante possible à nos lecteurs, et je pense que tous ont plutôt très bien travaillé, que ce soit dans les communes gagnées par LFI ou en passe d'être gagnées par LFI, comme vous l'avez dit, jusque dans là, il y avait des candidatures de la société civile. Vous avez oublié, Thomas, de parler de Serge Blanco, élu à Biarritz, la légende du 15 de France. Et donc voilà.
Alors, vous avez suivi notamment. Alors, on a vu dans les réactions médias. Alors, tout le monde concède une percée quand même du Rassemblement National, qui est quand même relativisée par leur échec à Toulon notamment. Déjà. Les raisons de l'échec de Laure Lavalette à Toulon, déjà, est-ce que c'est symbolique des difficultés que peut rencontrer l'Assemblée nationale, on va dire, à conquérir des mairies de grande ampleur, ou est-ce que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, en quelque sorte, pour vous, Nicolas?
Mais disons qu'en fait, à Toulon, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a eu un coup de maître de la part de Renaud Muselier et d'Hubert Falco, le maire sortant, condamné, donc inéligible, puis remplacé par José Massy. C'était de mettre deux candidats dès le premier tour soutenus donc par ce bloc central. Donc José Massy, l'héritière de Hubert Falco, et le sénateur dont évidemment je viens d'oublier le nom, pardonnez-moi.
En tout cas LR.
Et donc soutenu par Hubert Falco officiellement et qui ont permis en fait finalement de passer à une candidature un peu faible de la part de José Massy, ont permis d'attraper un peu plus largement et de garder Michel Bonus, le sénateur LR. Voilà, je n'y arriverai pas si je ne retrouvais pas son nom. Et donc de garder un petit peu dans l'escarcelle du bloc central et éviter la désertion vers Laure Lavalette des électeurs LR. Et donc tout ça a plutôt été un coup de maître d'une stratégie vraiment intéressante. Et puis, il ne faut pas l'oublier, peut-être que aussi dans La Valette, c'est peut-être vu, ou peut-être que nous, on l'a vu un peu trop belle, si je puis dire. C'est-à-dire que finalement, dans les sondages, elle n'était pas donnée si haute que ça. Elle fait malgré tout un score très honorable au premier tour, puisqu'elle est au-dessus des 40%. Mais il y a aussi ce phénomène que Toulon, le sortant, malgré la condamnation, n'avait pas un bilan si désastreux que ça. Toulon reste une ville assez agréable, où notamment les quartiers les plus favorisés vivent, comment dire, sans trop les conséquences de la politique migratoire, de l'insécurité. Toulon n'est pas devenu Bordeaux, Toulon n'est pas devenu Marseille, même si évidemment il y a des problématiques. Et donc tout ça explique que Laure Lavalette n'a pas réussi finalement à recueillir les 50% nécessaires.
Alors, il y a eu l'échec de Toulon, néanmoins, il y a eu des succès. Alors, Nice, c'est un peu particulier, puisque c'est Éric Ciotti, président de l'UDR. C'est donc la campagne était quand même très très marquée Ciotti, et pas trop marquée Rassemblement National, justement, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, il y a eu victoire à Carpentras, à Castres, à Montauban, à Carcassonne, dans le Pas-de-Calais, une douzaine de communes a basculé aussi Rassemblement National. Pour vous, on peut parler de succès, en tout cas, à échelle locale, de ce que vous avez pu voir à La Flèche aussi également. Quel est votre point de vue justement sur les scores réalisés par Rassemblement National, et après je ferai réagir mes invités.
En réalité, le Rassemblement national a réussi à aller chercher la France périphérique, parce on retrouve donc effectivement les villes moyennes, celles qui ont plutôt fait rigoler peut-être certains Parisiens qui voulaient se moquer peut-être du bilan du Rassemblement national. Mais aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est 3 000 conseillers municipaux dans 86, je crois, départements, donc dans quasiment tous les départements. C'est donc 70 mairies quand ils en avaient plus que 13. Ils ont réussi à conforter leur bastion, c'est-à-dire que là où ils avaient des sortants, eh bien, ils ont été élus dès le premier tour. Là où ils avaient des sortants, ou alors dans les circonscriptions déjà gagnées par le RN, eh bien, des maires RN ont été élus. Je pense à Agde, je pense autour de Perpignan aussi, je pense à effectivement Carcassonne. Ce qui est intéressant aussi à Montauban, et là on revient peut-être un peu plus sur l'UDR, mais c'est que Montauban, là, on avait une maire LR, passée UDR, Brigitte Barège, qui ne pouvait pas se représenter elle non plus, mais qui les électeurs, notamment les électeurs de Brigitte Barège, se sont retrouvés face à un choix où le candidat, donc UDR-RN, qui était adoubé par Brigitte Barège, ou bien un candidat LR. Et effectivement, ils ont choisi le candidat UDR. Donc, ça montre aussi que finalement, là où certains pensent que comment dire, le choix de certains élus d'être allés à l'UDR n'est pas finalement simplement la lâcheté, mais c'est aussi un pari politique qui fonctionne. Castres, c'est un petit peu différent, parce que Castres, on s'est retrouvé avec 5 candidats impossibles, qui étaient à peu près tous sur le même créneau, et impossible à mettre d'accord au second tour. Et donc le maire RN là-bas, malgré tout, est élu et bien élu, mais avec 25% seulement. Vous voyez, ce n'est pas la même victoire, par
Ouais,
exemple, qu'à Castres.
30%, je crois.
Oui,
Entre
peut-être.
25
Enfin,
et 30.
30.
On vérifiera, on vérifiera, on vérifiera.
Mais en tout cas, ce n'est pas exactement la même victoire, la même configuration que dans d'autres villes. Mais c'est vrai qu'il est à noter, par exemple, qu'à Orange, eh bien, ils ont réussi à déloger le Jacques Bompard et la famille Bompard. À Carpentras, ils ont cassé la malédiction de Carpentras, dont on a déjà parlé ici, de tous s'unir finalement au second tour. Et puis c'est la gauche qui a attrapé ce maudit virus de la division, et donc qui a permis à Carpentras de basculer. Et puis il y a des bastions communistes, comme je pense à Vierzon par exemple, qui a basculé au sein du Rassemblement national. Et ça, ça fait partie des grandes surprises.
Alors, Vierzon, c'était une coalition de l'intégralité de tout ce qui pouvait représenter un parti globalement de droite dans la ville. Il a fallu y aller. Enfin, je crois qu'il y a de tout, quoi. Il y a du Reconquête, du RN, limite du LR, du DF. Comment?
Il y a un mec du MoDem
Il y a
dans la
même
liste.
un cadre local du MoDem, me souffle Étienne Darjac. Donc, c'est vrai qu'il a fallu quand même aller la chercher très loin, cette victoire à Vierzon, Nicolas Boutin.
Et oui, effectivement, mais en même temps, ça montre aussi que, contrairement à ce que la gauche veut bien entendre, c'est qu'il y a aussi une gauche qui est à bout de souffle dans ces villes, ces bastions communistes ou socialistes qui ont basculé. Je pense aussi à Clermont-Ferrand, qui depuis 80 ans n'avaient pas connu de maire de droite et qui en ont aujourd'hui un, eh bien, ça montre finalement le pouls du pays, de la France périphérique, comme on l'appelle, qui demande aujourd'hui un certain retour. Alors, à la fois, vous l'avez dit, peut-être avec certains non-politiques, peut-être un peu plus de pragmatisme, ou en tout cas, ils veulent tourner la page de toutes de ces baronnies. Et finalement, là aussi, Christian Estrosi, on a été la victime.
En tout cas, oui, c'est ça, un vote sanction. François Devoyer, j'ai cru comprendre, on en parlait un petit peu avant l'émission, vous n'étiez partagez pas forcément le même enthousiasme que Nicolas Boutin sur ses scores et sur cette percée du Rassemblement National aux élections municipales 2026.
Alors, au-delà du Rassemblement National, j'allais dire pour la droite en général. On passe de 20, 21, je crois, maire à 71, quelque chose comme ça. On multiplie par un peu plus de 3. En théorie, c'est très bien, mais je rappelle une fois de plus que les élections de 2020, c'était vraiment très particulier. Il y a un contexte qui est extrêmement favorable. On a énormément de députés RN, ce qui était inenvisageable auparavant. Partout où il y a une réelle implantation et la volonté de choisir des candidats qui ont un ancrage local, ça se passe très bien. Et vous citiez le cas de Vierzon, juste à côté, à Villefranche-sur-Cher. Et tout ça est orchestré d'une main de maître, je crois pouvoir le dire, par Alexandre Avril, qui a fait un travail local incroyable à Salbris. Donc quand ça se passe comme ça, effectivement, on a des résultats très impressionnants. C'est le cas d'ailleurs également dans les grosses villes. J'ai trouvé qu'il y avait un abandon un peu en disant « De toute façon, les grosses villes, c'est pas pour nous, c'est mort. » À Pau, Margot Taillefer, qui a fait une très bonne campagne, très en amont, a réussi à dépasser 17%. C'est vraiment impressionnant pour une ville comme Pau. Donc, je trouve qu'on a tendance à, effectivement, en se focalisant sur les députés qui se sont présentés. Et à l'origine, moi, il me semble me souvenir que le parti devait fortement encourager énormément de députés à se présenter, ou en tout cas à vraiment organiser des listes très en amont. Malheureusement, ça n'a pas été le cas partout. Certains l'ont fait, et très efficacement. Je pense à Edwige Diaz en Nouvelle-Aquitaine, qui effectivement a été cherché partout des candidats locaux, alors que c'était une région vraiment difficile pour la Rassemblement National.
C'était pour eux, c'était une terre de mission.
À l'inverse, on va pas se mentir, il y a tout de même, je suis surpris, et je ne suis pas le seul, que dans le Nord, par exemple, les résultats étaient aussi décevants.
Zéro ville dans le département du Nord.
Alors, bien sûr, il y a là encore un contexte, un microcosme très particulier, des villes tenues par tout un système syndical, associatif, etc. Mais justement, dans ce genre de ville, il aurait fallu préparer les élections bien en amont. Et ça n'a pas été fait. Pour de très bonnes raisons, sans doute. Le parti avait d'autres chats à fouetter, les députés ont siégé jusqu'à pas d'heure pendant des mois et se sont littéralement épuisés. Je ne suis pas là pour accuser, jeter des pierres, mais dans les faits, je trouve que comparé à ce que le Rassemblement National aurait dû réaliser comme score, c'est un peu décevant. Il y a une vague, mais elle n'est pas suffisante pour espérer tout simplement prendre le Sénat. Ou en tout cas avoir un groupe fourni au Sénat, c'est tout de même un des objectifs. Il y a eu des divisions, il y a eu des purges, il y a aussi des très belles réussites. J'espère que le parti va se pencher sur ce qui a fonctionné, qu'il encouragera cette façon de faire. Souvent, on a laissé de l'autonomie à ces candidats-là qui ont bien réussi. À l'inverse, qu'il ira se pencher également sur ce qui a raté. Et j'ajoute simplement une dernière chose. Je trouve qu'il y a une manière de traiter un peu cavalière le cas de Paris et des grandes métropoles. Je le disais tout à l'heure.
Ah, je voulais interroger Étienne Darjac sur Paris.
Paris à gauche, c'est parfait, je vais introduire le sujet et je laisse la parole à Étienne. Mais Paris, ça n'est pas anodin. Je veux dire bon, de toute façon, le candidat doit se maintenir, peu importe, quelle que soit la situation. Enfin, Paris, si le Rassemblement National parvient au pouvoir, ce que je souhaite, dans les 2 ans, ce sera la capitale où se trouvent tous les ministères, tout le pouvoir régalien, toutes les institutions. Je pense que c'est tout de même beaucoup plus facile de gouverner courageusement, en ayant des réformes vraiment qui vont rendre fous les gens de gauche, dans une ville tenue par une droite molle, certes, mais comme Rachida Dati, que dans une droite, que par une gauche qui littéralement peut organiser une espèce de chaudron insurrectionnel. Et ces gens-là n'hésiteront pas. Ils nous l'ont annoncé aussi bien les proches banlieues que la ville de Paris même. Donc je trouve qu'il y a une manière un peu légère de dire de toute façon les grosses villes c'est pas pour nous. Et par exemple, moi, j'ai pas vu beaucoup. Il y a beaucoup de militants RN à Paris, il y a beaucoup de collabs. Je les ai pas vus énormément.
Ouais. Certains étaient candidats au municipal, en tout cas. Est-ce que vous adhérez, Étienne Derjac? Est-ce qu'il y a un peu le. Comme le rat des villes et le rat des champs, il y a le parti des villes et le parti des champs, et le RN est indécrottablement, si je puis dire, sans mépris social aucun, un parti des champs.
En fait, je ne sais pas si c'est le cas. D'ailleurs, si c'est le cas, c'est plutôt tout à son honneur. Mais ce qui est certain, c'est que je trouve que, pour parler spécifiquement de Paris, il y a une occasion qui a été ratée, parce que depuis tout juste 2 ans, le RN a l'appareil parfait pour aller à la conquête des grandes métropoles sans renier son identité, qui est l'UDR. Moi, je n'ai pas compris pourquoi à Paris, par exemple, mais c'est aussi valable à Bordeaux, alors ils l'ont fait à Lyon, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas investi un candidat UDR à Paris qui aurait beaucoup plus correspondu à la sociologie électorale de la droite parisienne?
Attendez, sur le papier, Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, est quand même, même s'il est plutôt élu dans le sud de la France à la base, quand même très installé.
Vous avez tout dit, il est absolument pas identifié comme parisien.
Il était identifié comme notable UMP, LR, si vous voulez.
Il y a 20 ans, Marc, pardon. j'ai rien contre, bah, pas loin, 2007. Hein.
C'est pas faux, 20 ans presque.
Oui, on vieillit. Enfin, hein. Surtout vous.
C'est une émission sérieuse, je vous prierai de garder vos colibets pour vous.
Typiquement, dans le cas de Paris, il y a eu sans doute de la part du RN une manière de dire, bon, on s'en fout, quelque part, qui, je pense, est assez irresponsable. La place a été prise par d'autres, par Sarah Knafo, on en reparlera sans doute, notamment. Mais oui, il y a le RN a une, et je crois que c'est très bien au fond, un ADN, j'allais dire sous-préfectoral, pour le dire comme ça,
ouais.
Qui fait sa force, hein, et qui fait son enracinement, et qui alors je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu un tsunami, mais il y a un ancrage progressif qui avance bien, qui, quand il a fait un pas en avant, ne fait pas de pas en arrière, ce qui est quand même très notable.
Tout à fait.
Les mairies sont conservées, vous avez dit
très
qu'il y a un député qui arrive. Hormis celle de
Villers-Cotterêts qui n'a pas été conservé, mais en sachant que le maire sortant ne se représentait pas.
Voilà, tout à fait.
Qui permet au RN de dire que tous les maires sortants ont été réélus.
Et qu'il était là depuis...
2014.
Donc ouais. Un des plus anciens.
Oui, tout à fait. J'ai lâché mon propos, mais tout ça pour dire qu'il y a, en tout cas pour Paris, oui, je pense qu'à Paris la chose a été prise à la légère. Et moi je suis d'accord avec François, la perspective de la victoire et de la ville de Paris prise par la gauche a pas été sans doute suffisamment prise en compte. Moi le premier, vous savez, on parlait de l'abstention tout à l'heure, je me suis, pour la première fois de ma vie depuis que je suis majeur, abstenu à une élection. Tu peux aller voter au second tour des municipales. Je n'avais aucune envie de voter pour Dati, pour tout vous dire. Donc,
vous faites ce que vous voulez dans le secret des isoloirs.
Mais de fait, j'ai quand même un peu réfléchi. Et au fond de moi, j'avais, en tant que militant national, j'avais aussi ce truc-là de bon, bah, c'est Paris, c'est foutu de toute façon. Et je pense que ça a été pris comme ça par le RN, sans doute, par beaucoup de collabs dont parlait François. Et c'est peut-être une des failles à retenir de cette élection.
Très rapidement, simplement, je me disais, c'est exactement ce que disait le RN sur l'Ouest il y a quelques années, et ils ont décidé d'occuper l'Ouest, et ils y sont parvenus. La Flèche, c'est incroyable comme victoire, quand vous connaissez la région. Vraiment, c'est très surprenant. Donc c'est possible, et voilà, la route est tracée, maintenant il faut aller dans les métropoles. Le problème, c'est que la prochaine, c'est dans 7 ans. Donc.
Nicolas Boutin, il y a l'Ouest, effectivement, il y a aussi, si on prend... toutes les régions de France, il y a 2 régions qui échappent encore totalement au Rassemblement National, c'est la Bretagne, à l'ouest effectivement, et la Corse.
Oui, ben je crois qu'ils vont pouvoir leur donner leur indépendance en 2027 s'ils arrivent au pouvoir. non, mais effectivement, c'est vrai, on a une sociologie quand même assez particulière là-bas, c'est-à-dire que en Corse, évidemment, parce que il y a eu quand même le score hein, de Nicolas Bacini qui est pas négligeable. À Bastia, il arrive en 3e position, il est devant des partis historiques, la foi du nationalisme corse et devant des courants traditionnels français.
Métropolitains.
Nationaux, on va dire.
Nationaux.
Il a eu en face à lui quand même le président de l'exécutif, enfin Gilles Séméoni. Et donc, qui est redescendu dans l'arène à la mairie de Bastia, notamment pour contrer sa percée. Il y a quand même une alliance assez intéressante, mais vous savez que c'est la Corse, après on pourrait revenir sur la Bretagne, mais en Corse, c'est quand même des baronnies pour le coup, avec des familles qui votent pour des familles. On est dans une société quand même organique, où il est très difficile, on va dire, d'émerger et de changer de camp politique, parce que vous pourrez trahir ses compagnons de route. Ou ses ascendants. En Bretagne, il y aurait aussi que c'est une terre de mission pour le RN et même pour la droite de manière générale. Mais regardez, Brest est tombé, Brest, les socialistes, est tombé. Il y a c'est LR qui en est à la tête. Et il y a une percée quand même du Rassemblement national. Parce que moi, je pense que si vraiment on devait faire un état des lieux plus sociologique que politique, en fait, j'ai envie de vous dire, Marc, vous qui êtes journaliste politique, je vous laisse le décryptage du second tour, et moi je préfère rester sur le décryptage du premier tour. Non pas parce que ça m'arrange plus, mais parce que ça reflète réellement l'état de l'opinion en France, outre l'abstention, mais en tout cas de montrer quand même que il y a une percée de la droite, et notamment de la droite nationale, en Bretagne, où on a vu des second tours qui n'étaient pas, qui étaient inenvisageables il y a encore 6 ans, que ce soit pour le RN, je pense à Concarneau, je pense peut-être à Lorient de mémoire. Il y a donc une percée petit à petit qui se fait, même si évidemment on est dans une région très ancrée à la fois à gauche et puis très liée. Je pense qu'il y a, pardon, mais peut-être que je lisais quelque chose d'intéressant sur les réseaux dans la journée, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, si le RN veut arriver à conquérir les métropoles, il va falloir draguer le vote des bobos.
Et
Mais
donc,
qu'est-ce qui reste
ouais,
d'autre aujourd'hui?
compliqué la convergence des luttes entre les bobos et la France périphérique. Là, je n'ai pas de plan en tête, en tout cas, sur la manière dont ça pourrait se faire. Merci beaucoup, Nicolas Boutin, d'avoir été avec
Merci à
nous
vous.
dans l'émission Restons courtois du jeudi, l'émission de Valeurs Actuelles. Restez avec nous, chers auditeurs, bien évidemment. Nous allons continuer à débattre de ces élections municipales. Il y a eu, donc, évidemment, cette percée relative, quoique réelle, du Rassemblement national avec plus de 70 villes. Il y a eu évidemment l'autre information de ces élections municipales, c'est la France insoumise et la gauche, en quelque sorte. La France insoumise et la gauche, puisqu'on a vu que le Parti socialiste, reniant sa prise de position nationale, a contracté des alliances au second tour avec beaucoup d'insoumis dans plusieurs villes, et que cela a eu des conséquences assez diverses. Pour certains, ça a été gagnant, pour d'autres, ça a été perdant. Ça a été gagnant à Nantes, ça a été par exemple perdant à Tulle, fief de François Hollande.
Toulouse, surtout.
Toulouse, vous avez raison, Étienne. Comment expliquer cette espèce de chaos à gauche, finalement, entre les socialistes, les insoumis, ou quand on est face à une guerre fratricide, on est face à deux camps qui, au fond, n'ont plus rien à faire ensemble. Comment vous analysez ça, Étienne Darjac?
Bah, j'ai envie de vous dire, à l'Est, rien de nouveau, hein, c'est le psychodrame de la gauche depuis l'effondrement du Parti Socialiste en 2017 et l'émergence de Jean-Luc Mélenchon. C'est à chaque élection la même question qui est posée, c'est les fameuses deux gauches irréconciliables, et à chaque fois, c'est la même réponse qui est donnée. Moi, alors, il est assez agréable et d'ailleurs conseillé de se moquer du Parti Socialiste, et j'en vous encourage à le faire, parce que effectivement, entre les déclarations d'Olivier Faure avant le municipal et celle d'après, je ne sais pas s'il arrive à se regarder dans la glace, tout à fait, mais c'est toujours le même sujet. On ne cesse de répéter que la gauche non-mélenchoniste ou anti-mélenchoniste ou moyennement mélenchoniste passe sa vie à critiquer Mélenchon parce qu'il est insupportable, on le sait, voilà, ok. Et quand il s'agit de gagner une élection, bah, tout le monde rentre à la niche. Il n'y a rien, absolument rien de nouveau.
L'instinct de survie prime sur
c'est, oui,
la
c'est ça. C'est
désertion.
Vieux comme le mélenchonisme. Donc il y a pas. Enfin, moi, j'ai pas d'analyse nouvelle à apporter là-dessus. À part peut-être que la démonstration est faite qu'Olivier Faure ne tient pas son parti, ne tient pas ses candidats. La vérité, c'est qu'il a été mis devant le fait accompli par tout le monde. Hein. Peut-être qu'Olivier Faure, sans doute, aurait préféré qu'il y ait moins d'alliances avec la France insoumise. Le fait est que.
Il a privilégié le fait de gagner, quoi.
Voilà, et c'est un pari plutôt perdant. Moi, ce que je retiens surtout de cette histoire, je trouve que les résultats sont quand même relativement rassurants. Si on se place vraiment, si notre angle d'analyse, c'est vraiment la crainte d'une victoire des LFI, soit prise localement à une municipale, soit de façon nationale, il y a quand même eu un rejet plutôt majoritaire de la France Insoumise qui est rassurant. Et je pense notamment par exemple au fait que ce qui est passé trop inaperçu et qui pour moi est un événement politique majeur dans la vie du pays, c'est cette tribune signée par plusieurs centaines de personnalités toulousaines, y compris de très grandes personnalités sportives, notamment Absolument. Du monde du rugby, de personnalités du monde économique, de personnalités du monde associatif, qui ont fait une tribune contre la France insoumise, comme on s'en est tapé, pardon l'expression, 650 ces 30 dernières années contre le FN ou le RN, et pour, un peu pour la première fois dans une élection locale comme ça, c'est contre la gauche et contre la France insoumise que la bourgeoisie, les notables locaux ont jugé bon de se mobiliser collectivement et de prendre position. C'est complètement inédit, c'est passé complètement inaperçu, alors je pense que c'est un moment cliquet de notre vie politique.
C'est vrai qu'on a vu ça, Thomas Morel à Toulouse, ça a été je pense une expérience abominable à vivre pour le Parti Socialiste, premièrement, parce que le candidat socialiste, donc François Briançon, avait déclaré, c'est un peu l'erreur de Jospin d'ailleurs, qui ne s'imaginait pas arriver troisième au soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2002, on lui demandait comment vous ferez, quelle est votre position vis-à-vis du candidat insoumis François Piquemal, il a dit écoutez c'est très simple, si j'arrive derrière lui, je me retirerai. Tellement il ne croyait pas à ce scénario. Résultat, évidemment, le résultat du premier tour tombe. Jean-Luc Moudenc et François Piquemal, qui devance François Briançon. Et François Briançon, qui même là n'a pas respecté sa parole, puisqu'il ne s'est pas retiré. Il a annoncé dans la foulée la fusion avec le candidat insoumis. Et ça a été un déchaînement absolument hallucinant. Il y a quand même une partie de ses colissiers qui sont partis. C'est-à-dire, à Toulouse, ça a quand même été la preuve des limites, justement, de cette addition des voix de gauche qui finalement ne se mélange plus, Thomas Morel.
C'est absolument vrai. Alors, il y a beaucoup de choses à analyser en faisant quand même un parallèle entre ce qui se passe chez les socialistes et ce qui se passe chez les républicains.
Absolument.
En miroir. C'est-à-dire que c'est un parti où il n'y a plus de personnalités fortes depuis très longtemps. Et donc, en fait.
Si, Olivier Faure.
Oui. ça ne s'écrit pas, FRT. ça ne marche pas. Et donc, en fait, le vide fait que, en gros, tout le monde s'engouffre et tout le monde se dit qu'il va pouvoir être le prochain. Et donc, pour Olivier Faure, c'est impossible à tenir. Mais je veux dire, chez les Républicains, Bruno Retailleau, dans une situation à peu près aussi compliquée.
On va parler du spectre de la primaire, Thomas Morel.
Tout à fait. En dehors de ça, et bah, écoutez, oui, alors LFI partant de zéro. Avant ces élections municipales a effectivement conquis cette ville, et le problématique étant que toutes les villes qu'ils ont conquis, c'est exactement la démographie au millimètre près qui sait que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise essayent de draguer depuis maintenant des années, et qu'on voit pas très bien, et qu'en dehors de ça ils s'en sortent pas très bien, on voit pas comment ils peuvent
c'est vrai que
la seule population qui vote pour Jean-Luc Mélenchon en 2027 c'est des descendants d'immigrés, c'est vraiment un peu léger pour séduire plus de 50% plus un Français.
C'est vrai que François de Voyer, quand on regarde les scores, enfin quand on regarde à la loupe les scores de la France Insoumise lors de ces élections municipales, en réalité, il n'y a pas de quoi avoir peur, entre guillemets. Ils ont quand même présenté 500 listes. Sur ces 500 listes, il y a eu seulement 7 villes qui ont été remportées par la France Insoumise. Les 3 villes dont ils disposaient en 2020, ils les ont perdues. C'est-à-dire à Fâche-Tuménil et dans deux autres communes, le maire insoumis a été proprement dégagé. Il y a eu effectivement ces deux prises de guerre, donc entre guillemets.
Saint-Denis et Roubaix.
Symboliquement. Attendez,
prises de guerre.
Saint-Denis et Roubaix. Saint-Denis et Roubaix qui étaient quand même les deux villes visées, qui étaient un peu le Toulon du Rassemblement National, si vous voulez. Il y avait quand même le côté, il y avait quand même l'enjeu d'un peu la ville symbolique. Saint-Denis qui tombe dès le premier tour et Roubaix au second. Néanmoins, pas de quoi pavoiser, François.
Ben non, mais je sais pas si ça nous arrange. Parce que sans doute, est-il mieux valu un LFI puissant pour vraiment devenir le diable de la République. Alors, ce sera peut-être suffisant dans l'imaginaire collectif, mais en réalité, LFI pèse ethniquement, et ça compte tout de même, parce qu'il faut se souvenir que les militants LFI, pas les militants, d'ailleurs les sympathisants, ne vont pas souvent aux urnes. Et quand ils y vont, c'est dans les grands moments, les moments importants, les seconds tours de la présidentielle. Et là, en revanche, cela peut peser, hélas, contre notre camp, quel que soit le représentant à ce moment-là. Donc, je ne sais pas s'il faut se réjouir. LFI a fait une contre-performance, à mes yeux. Hein. Je me trompais, mais moi, je ne vois pas du tout de grande victoire LFI. Le Rassemblement National arrive dans les meilleures conditions, mais on se rend compte que LR a encore un maillage local très assez impressionnant finalement. Mmh. Et je crois qu'en pourcentage, ça veut rien dire, mais ils ont réalisé 57% des communes de plus de 9000 habitants, là où le RN fait 3% et, mmh. et la gauche à peu près tout le reste. Et donc on est sur la bonne voie, mais le chemin électoral est long alors que le temps nous est compté. Mmh. Donc c'est un peu inquiétant de ce point de vue. Je pense qu'il faut plus que jamais travailler et on se rend compte tout de même, ce qui est rassurant, et je trouve que ça redonne foi en la politique, on s'est rendu compte pendant ces élections que le travail vraiment minutieux de maillage, d'ancrage local, de rencontres associatives, ce qui n'est pas du tout le cas à l'occasion d'autres scrutins, là, aux élections municipales, est payant. Mmh. Ça, je trouve que ça redonne un peu foi dans la politique. Et mmh. de ce point de vue, ça devrait donner envie à beaucoup de gens proches des différentes droites fortes de s'engager.
En tout cas, on a vu ces images à Mantes-la-Jolie, à Creil, à Saint-Denis, à Sarcelles également. On a vu des scènes de liesse, parfois de débordement, parfois de haine pure. Ces images ont déjà été beaucoup commentées. On a vu aussi émerger des personnalités comme celle de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis. Finalement, c'est ce que disait Rima Hassan, le temps du porte-parole est terminé pour les minorités. Et on a presque l'impression qu'ils suppriment les intermédiaires en quelque sorte. Enfin, la défaite de Mathieu Hanotin, maire PS de Saint-Denis, a été symbolique à bien des égards. Mathieu Hanotin, c'est pas qui s'est fait dégager au cri presque de dehors les fascistes. Mathieu Hanotin, c'est pas le fascisme, hein, c'est l'ancien directeur de campagne de Benoît Hamon. Je veux dire, on est quand même sur quelqu'un quand même qui est très à gauche. C'est quoi pour vous ces images? Symboliquement, ça représente quoi pour vous, Étienne?
Ça représente non pas un changement d'époque, mais un changement de peuple et un changement de conséquemment de rapport à la politique. C'est pas là, si vous voulez, il y a une conception de l'alternance démocratique. Mmh. Je suis en plein des mots de centriste, j'ai l'impression de Fédor Philippe, mais qui est profondément ancré en France, dans tous les camps politiques d'ailleurs, et qui peut occasionner des scènes de joie ou des campagnes un peu anarchiques, comme on l'a vu à Nice, ouais. mais qui ça va rarement au-delà de ça, si vous voulez. Là, on sent vraiment que les maires qui ont gagné ces élections dans ces villes-là et leurs entourages ont un rapport à l'adversité politique qui n'est plus du tout le même, qui est plus celui d'ailleurs de l'adversité, mais sans doute du rapport d'un étranger à un autre, si vous voulez.
De l'ennemi, quoi, en fait.
De l'ennemi, oui, tout à fait. Ouais. Le meilleur exemple, comme vous l'avez dit, c'est Monsieur Hanotin, évidemment, mais en fait. Si vous prenez dans les civils en question, je crois qu'il y a autant de socialistes que de LR, que de. Je crois qu'il y a un UDI. Et des choses, c'est, en fait, c'est indifférencié. Et c'est ni la gauche, ni la droite, ni le centre qui est visé, c'est le blanc, en réalité. Là-dessus, il y a quelque chose qui est très
pour
clair.
Vous, entre le maire PS Hanotin, le maire LR Raphaël Cognet, ou que sais-je encore, pour vous, c'est la même chose.
Il n'y a
quoi,
pas de différence.
Dans l'esprit du.
Bien sûr. Ouais. Et en fait, ça, c'est pas surprenant. C'est quelque chose qu'on annonce, en tout cas pour les gens qui suivent de près la politique et notamment le mélenchonisme. Mélenchon est déjà, depuis plusieurs années maintenant, tout le monde le sait, dépassé sur sa gauche par une large partie de la gauche indigéniste, c'est comme ça qu'on l'appelle. Par des gens comme Auriel Buteldja, mais aussi par des gens au sein même de la France Insoumise, qui sont infiniment plus offensifs que lui, et qui sont pas loin de le traiter, lui, de raciste, ou de encore héritier de l'esprit colonial français.
Ouais.
Et ces gens-là ont beaucoup porté l'idée que la gauche blanche avait été bien gentille et bien aimable de financer et de représenter l'immigration, les minorités, comme on dit, pendant des années, mais que maintenant, on allait faire sans elle. Et ça fait des années qu'ils le disent, donc en fait, au bout d'un moment, le reste c'est de l'arithmétique. Le reste c'est de l'arithmétique. Après, je pense que des gens comme Monsieur Hanotin se rendent compte peut-être un peu tardivement que miser là-dessus pendant, je sais pas depuis combien de temps il était maire, en l'occurrence,
il avait fait les réussites exploits. D'ailleurs, à l'époque, il avait été noté, c'était qu'un maire socialiste arrache justement la mairie de Saint-Denis aux communistes.
Ouais, ouais.
On passait du rouge au rose, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Et on repasse au rouge depuis, donc bon.
on passe du rouge fuchsia au rouge
voilà,
carmin,
c'est
si
ça.
Vous voulez.
ces gens-là, et je pense, mais si vous voulez, si M. Hanotin avait pas gagné et que le communiste était encore en place, il serait passé la même chose.
Ouais.
Ça n'aurait rien changé. Il est bon que ces gens-là qui ont construit leur carrière politique, leur rente électorale et financière sur la mise en avant de l'immigration, reçoivent un peu la monnaie de leur pièce.
Thomas Morel, sur la vision de ces scènes, ce qu'elle vous a inspiré.
Alors, la première chose, c'est que moi j'avais été en reportage à Saint-Denis justement pour raconter un peu comment la ville avait évolué. Et j'avais été, j'étais intimement persuadé.
Mais reportage de guerre à ce niveau-là.
J'ai, mais alors, j'ai
pas eu de prime en tout cas.
Assez peu de, je suis pas journaliste politique, hein, on l'a déjà dit. Pour moi, c'était absolument, c'était un terrain fertile pour le Parti socialiste parce qu'on est juste à côté de Paris, parce que c'est un endroit où l'immobilier est pas cher, alors que plus personne peut se loger. Donc c'est évidemment l'endroit où tout la population de gauche qui vient travailler à Paris allait emménager et où on partait pour 50 ans de socialisme.
Côté gentrifié, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Échec total de mes prédictions. Ne me croyez surtout pas quoi que je vous dise pour 2027. Hein.
Non, attendez. Ceci dit, Thomas Morel, il a certes été élu au premier tour, mais avec 15 000 voix sur les 150 000. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, c'est une infime minorité de Dionysiens qui ont élu le maire de Saint-Denis, en plus.
Donc, c'est pas 58%, je crois, des inscrits.
Oui, c'est ça. Il a été élu au premier tour par 8% des électeurs de Saint-Denis. Ouais. Juste, voilà, pour préciser le...
Il n'empêche que les électeurs se sont pas plus mobilisés pour Mathieu Hanotin que...
Non, c'est pas faux. C'est pas faux.
À la fin, il a quand même...
Ils étaient en week-end en Normandie, les gauchistes se gentrifiaient le soir des élections, qu'est-ce que vous voulez.
Ouais. Voilà. Ouais. Moyennant quoi, effectivement, alors, je sais pas si vous avez vu passer ces images à propos du au moment du décès de Lionel Jospin il y a quelques jours, sur ce débat qu'il a avec Jacques Chirac, et après le débat, ils échangent et ils disent que on a tous quelques militants extrêmement violents qui disent vas-y, casse-le, etc., et qu'en réalité, les Français n'aiment pas ça. Ben, la réalité, c'est que maintenant, les Français sont de plus en plus portés sur une forme de violence politique. On a eu effectivement une période assez brève de quelques dizaines d'années où les choses étaient, où les gens étaient modérés et qu'on est passé d'une radicalité à la modération et que la radicalité revient.
La radicalité revient. C'est la radicalité politique qui revient, François de Voyer, ou c'est autre chose.
Je pense que c'est effectivement accentué par l'effet ethnique. Hein, vous parlez franchement dans les communes dont on parle. Mais effectivement, retour de la radicalité. Et puis tout de même maintien d'une forme de tripartition. Hein. Je pense que les élections législatives étaient une bonne photographie de l'électorat. Simplement, on voit que le Rassemblement National a pris le dessus dans cette tripartition et qu'à l'inverse, LFI a lâché du lest. Mais ça reste un pays compliqué à gouverner. Moi, le premier sentiment que j'ai eu, c'est mais quel chantier pour celui ou celle qui va se retrouver au pouvoir en 2027. C'est-à-dire qu'on a vraiment un pays divisé au dernier degré, avec des haines recrues. Moi, dans ma région, il y a eu des bastons violentes entre gens d'ailleurs qui étaient politiquement très proches, et dans une ville et un pays
de personnes
qui
aussi,
sont très calmes. Je veux dire, on est dans le centre-ouest, ce sont des rats de soc très tranquilles, hein, généralement. Ça... Et là, on sent une espèce de montée d'angoisse, etc. La dernière inquiétude, je disais tout à l'heure, mais Mélenchon terminé, il n'aura pas sa place au second tour. Je mets tout à l'heure un bémol, c'est l'évolution du contexte international, sur lequel, qui n'a pas joué sur les élections municipales, mais qui peut très bien avoir une influence positive ou très négative, en particulier sur LFI. Je pense que c'était LFI, c'était à l'époque Reconquête et le RN qui étaient les plus sensibles à l'atmosphère, au brouillard international. Là, pour les prochaines échéances, je pense qu'il faudra suivre de près également la situation internationale, parce que cela peut vraiment faire tomber définitivement LFI, ou au contraire, lui assurer une forme de rente, en tout cas la certitude d'atteindre les 15%, ce qui est déjà énorme. Hein, quand vous paralysez 15% de l'électorat, c'est lourd à porter ensuite. Ce sont des gens qui ne cachent pas du tout leur motivation insurrectionnelle.
En tout cas, ce qui est certain, Étienne Darjac, c'est que... allez. Pendant longtemps, et Jean-Luc Mélenchon a pu dérouler sans trop de problèmes sa rhétorique sur la Nouvelle-France, la créolisation, etc. Parce que, contrairement au macronisme, il n'était pas pris par la difficulté de la dose de réalisme que vous met l'exercice du pouvoir, entre guillemets. Là, maintenant qu'il va y avoir des véritables laboratoires insoumis, c'est-à-dire que je pense que des villes comme Saint-Denis, Sarcelles, Roubaix vont être scrutées à la loupe par à peu près tout ce que la France peut compter d'observateurs politiques, sociologues, experts en relations internationales, presque, j'ai envie de dire, il y aura plus de doute. En fait, là, le bénéfice du doute sera levé pour Jean-Luc Mélenchon, et finalement, les conséquences d'une politique insoumise exploseront à la figure de tout le monde. Alors, ça peut parfait. Après tout, pourquoi pas, ça peut marcher. Hein, si ça marche, c'est formidable pour Jean-Luc Mélenchon, parce que ça lui permettra d'arriver avec son présidentiel, ou en tout cas de continuer, ou son mouvement pourra continuer sa vie politique avec un bilan positif, ou alors au contraire, démontrer qu'au fond, tout cela ne sert strictement à rien, que tout cela ne peut mener qu'au chaos, au désordre et à la ruine.
Et tout le reste.
Et tout le reste, j'en veux encore plein d'adjectifs.
Écoutez,
si vous voulez.
Mon premier mouvement d'idée, c'est.
Les superlatifs, si vous voulez. Ouais.
Mon premier mouvement d'idée, c'est de me dire, de toute façon, la présidentielle, c'est dans quasiment un an. La campagne va commencer là, dans les tout prochains mois, avec les premières désignations de candidats. On pourra en parler tout à l'heure, c'est assez rigolo. Donc, quoi qu'il se passe à Saint-Denis ou à Roubaix, ça, on n'aura pas le temps, si vous voulez, de voir les fruits positifs ou négatifs, pour rester très neutre, des politiques insoumises dans ces villes-là. Quoique, bon, là, j'ai l'impression que M. Bakayoko en Seine-Saint-Denis nous fait un bon départ.
On commence à y avoir des petites remontées police, d'explosions, de règlements de compte autour de points de deal. En fait, si vous voulez, c'est pas tant la réalité de la politique, c'est le message que vous envoyez aux délinquants aussi, en fait.
Je suis d'accord, mais si vous voulez, encore une fois, vous parliez tout à l'heure de prise de guerre et je me suis un peu insurgé. Ça serait intéressant si les insoumis s'étaient emparés d'une ville assez lotale, assez tranquille. J'ai pas d'exemple en tête particulièrement. Là, on parle de Saint-Denis et de Roubaix. C'est-à-dire, c'est quand même des villes qui, pardon pour l'expression, sont perdues pour la France depuis très longtemps. Donc, est-ce que le passage d'un communiste à un insoumis va considérablement aggraver la situation au point que des gens qui potentiellement auraient voté insoumis diront « Ah, là, c'est vraiment pas possible ». Moi, j'y crois pas une seule seconde.
Mais remarquez, ça ferait une première en France, ça pourrait presque faire regretter la gestion communiste d'une ville. Quelque part, ce serait. Peut-être que c'est le parti communiste qui regagnera des points.
Fabien Roussel, leader du Front anti-mélenchon, j'ai hâte de voir ça.
Bah, c'est ce qui est plus ou moins le cas, mais ça le sera peut-être un peu plus franchement. C'est Fabien Roussel, d'ailleurs, brillamment réélu au premier tour dans sa ville de Saint-Amand-les-Eaux. On va parler des LR maintenant très rapidement, puisque.
Avec plaisir.
C'est moins tragique. C'est presque comique malheureusement. Donc les Républicains, donc on va dresser l'état des lieux, perdu entre une Macronie agonisante et un Rassemblement National doté de l'UDR qui sert de sas de décontamination pour bon nombre de cadres LR en mal de reconversion. Les Républicains qui se retrouvent avec une difficulté majeure, c'est de primaire, pas primaire, ouverte. Pas ouverte, ou tout simplement, et ça a été le coup de force qu'a fait Bruno Retailleau en début de semaine, de dire on va laisser trois choix aux militants, une primaire ouverte, une primaire fermée, et moi.
C'est
et moi, mais sans primaire. Ce qui évidemment a créé un bazar pas possible. Laurent Wauquiez, qui boudait la réunion, de toute façon ne s'y est pas rendu. David Lisnard a menacé de quitter le parti si c'était le cas. C'est presque un petit peu ça qui est tragique, Thomas Morel, puisque dans l'absolu, Bruno Retailleau, en tant que président des LR, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, aurait la légitimité politique effectivement d'être candidat, mais on a l'impression qu'en fait il est dans l'incapacité totale de l'imposer.
Par ailleurs, clarifions les choses, une primaire ouverte, une primaire semi-ouverte ou Bruno Retailleau, à la fin c'est quand même Bruno Retailleau qui est choisi. Hein.
Pour vous, s'il y a une primaire, il n'y a pas de suspense.
Pour l'instant, la seule personnalité qui a un peu de poids médiatique capable de le concurrencer, c'est Laurent Wauquiez. Je suis pas sûr qu'il soit capable de rassembler suffisamment donc en fait à la fin, à mon sens, on en revient à la même chose. Ça a tout de même un énorme avantage, c'est que au fur et à mesure que les départs s'actent chez les Républicains, c'est-à-dire qu'Éric Ciotti est déjà parti, là c'est David Lisnard qui part, on retrouve une espèce d'homogénéité au parti qui lui manquait depuis des années. C'est-à-dire que ça fait, je sais pas, depuis la fin depuis que Nicolas Sarkozy était élu en 2022, que le parti ne sait plus s'il doit être très à droite, pas très très à droite, plus proche de Xavier Bertrand, quelque part entre les deux, ou est-ce que, etc. En plus, il se fait siphonner par Emmanuel Macron. Donc là, peut-être qu'au moins, ils peuvent essayer de retrouver une forme de ligne commune, et au moins, quand ils parlent, donner l'impression aux électeurs qu'ils disent une chose et que tout le monde dit la même chose. Voilà.
Ouais, François Loyer sur Bruno Retailleau et sur... primaire, pas primaire.
Le sujet excitant.
Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Sarah Knafou, peut-être on va en parler de Sarah Knafou aussi dans cette équation.
La seule chose qui pourrait passionner les Français, c'est effectivement une vraie primaire ouverte allant de Sarah Knafou à Édouard Philippe.
Ouais, mais
ça n'arrivera, bien entendu,
voilà.
Jamais.
Bah, le problème, quand vous posez la question à Édouard Philippe, il vous répondra dans la seconde, ça n'a aucun sens, puisque si Sarah Knafou gagne, bien évidemment, je ne la soutiendrai pas.
Naturellement.
Et par ailleurs, si Édouard Philippe gagne, Sarah Knafou ne le soutiendra pas non plus.
Exactement. Voilà. Et voilà, la question, c'est en fait, ça va être intéressant de voir tous les petits coups de poignard les plus ignobles. C'est ça, c'est ce spectacle-là qui va être amusant.
Déjà que l'espace n'est pas immense, s'ils sont 15 dessus, ça va être compliqué.
Exactement. Après, ils ont des raisons de se battre, parce qu'encore une fois, il y a un trou de souris qui permet d'accéder au second tour.
C'est pour ça qu'ils sont tous fous déjà d'ailleurs.
Il y a une autre chose qui me chatouille. On sait très bien que les sondages, plus d'un an avant les élections présidentielles, sont rarement prédictifs. Mais en l'occurrence, je voyais le score annoncé de soit de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Je crois qu'on atteint, selon les sondages, entre 34 et 36%. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais ça fait tout de même pas mal d'années qu'on n'a pas connu un premier tour avec ce type de score.
Non.
Tout peut arriver, mais même Nicolas Sarkozy en 2007 n'a pas dépassé les 32. Je ne crois pas me souvenir d'avoir vu un score plus important. Je pense que les cartes vont tout de même le temps d'être largement rebattues. Et on s'est rendu compte d'une chose pour ces municipales, c'est qu'il y a tout de même de la place à droite. Souvenons-nous de l'effet Zemmour en 2022, qui a tout de même largement bousculé le duel de départ annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Là, il peut y avoir énormément de nouveaux acteurs qui vont répondre chacun à une part de l'électorat qui, comme le disait Thomas Morel, est de plus en plus segmenté, de plus en plus virulent, de plus en plus agressif. Donc on peut avoir une droite très divisée. Il y aura un RN, bien sûr, qui sera qui va dominer.
Très haut.
Voilà, mais je pense pas, malheureusement, je le regrette, parce que la dynamique du premier tour sera essentielle pour l'emporter face au Front Républicain qui va forcément se construire, mais c'est tout de même très difficile de dépasser les 30 dans une élection présidentielle en France, au premier tour.
Étienne Darjac.
Ce qui est certain, c'est que, pour revenir un peu plus précisément sur les LR, on assiste à ce qui est potentiellement un des plus grands fiascos de l'histoire politique française récente. Hein. Faut se souvenir qu'il y a moins d'un an, ou peut-être quasiment juste un an, Bruno Retailleau était un flamboyant ministre de l'Intérieur, élu à la tête des Républicains à 80%, je crois, ou 75%. Ouais. C'était magnifique. Enfin, magnifique. Pour qui est client de ce genre de choses, évidemment. Mais, et si vous comparez ce moment-là et ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est juste hallucinant ce qui s'est passé aux Républicains. Alors, ce parti continue à nous surprendre d'année en année, c'est ce qui est toujours agréable. Et là, oui, effectivement, ce communiqué, moi je l'ai lu avec un délice que je ne vous dissimule pas. C'est exceptionnel, si vous voulez, de cette manière de faire. Et là, on commence déjà à voir les offs des bureaux politiques. C'est fou quel point c'est. Il faut se figurer, si vous voulez, le radeau de la Méduse. Sauf que sur le radeau de la Méduse, tout le monde est en train de se battre.
Ouais,
c'est vraiment ça qui se passe, quoi. Et les mecs se battent pour faire 5%. Parce que Bruno Retailleau, s'il est candidat à la République, il fera pas plus que ça. Hein.
Pour vous, il n'y a aucun espace pour eux.
Mais il n'y a aucun espace pour. Enfin, ils n'ont pas de ligne. Particulièrement pour faire. François parlait de dynamique.
Et pas de charisme. En l'occurrence, pour Bruno Retailleau.
Vous avez remarqué, vous êtes encore plus dur avec LR qu'avec la France Insoumise depuis le début de cette émission.
Oui, parce que, pardon, un Mélenchon a du charisme. On peut pas retirer ça.
Non, sur cette question-là,
Bruno
bien sûr,
Retailleau, c'est dramatique. Je ne sais pas si vous l'avez vu en dehors d'un plateau, mais c'est quand même très inquiétant. Il est incapable de répondre avec un peu de coffre, de d'aisance. C'est vraiment. Et heureusement que les gens ne le voient que dans des conférences de presse.
Il est sinistre, Bruno Retailleau. Et derrière, vous avez Xavier Bertrand, la blague continue à s'écrire toute seule. Il reste qui ? Il reste Gérard Larcher. Il reste Michel Tabarot. Il reste Jean-François Copé. Enfin, donc, c'est ça qui reste, à vrai public. Il reste François Baroin. Voilà.
Oui, vous avez pas tout à fait, reste Guillaume Larrey. Non, mais
qu'on se rende compte de ce qui est devenu.
Il vient de faire toute l'Assemblée nationale.
Qu'on se rende compte de ce qui est devenu ce parti. Et l'opposant numéro un dans cette histoire, c'est Laurent Wauquiez.
Oui.
Laurent Wauquiez, oui, il a une surface médiatique qui est importante. Il est très connu par les Français. Mais il faut se rappeler que Laurent Wauquiez est une des personnalités politiques les plus détestées par les Français, les plus méprisées. L'impasse est absolument totale. Et je termine sur cette idée de primaire de Édouard Philippe à Sarkozy, qui est évidemment grotesque, et qui, il faut se mettre à la place de ces gens-là. Cette idée n'est agitée comme un hochet par Laurent Wauquiez que pour faire chier, pardon l'expression, Retailleau. Ça ne va pas plus loin. Laurent Wauquiez n'en pense pas le traître mot.
Il n'y a pas une volonté pour lui d'ouvrir à droite et de compenser face à des personnalités beaucoup plus à gauche comme Xavier Bertrand ou...
S'il avait voulu le faire, il l'aurait fait bien avant. Alors Laurent Wauquiez, ça fait 15 ans qu'il vit sur l'aile droite des LR.
Ouais.
Bon, au bout d'un moment, l'aile droite des LR, elle est partie chez UDR il y a 2 ans déjà. ça serait s'il avait eu le courage d'emboîter le pas.
Mais il y a quand même une autre personnalité, Thomas Morel, qui pourrait, enfin, et c'est aussi pour ça que, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il est fou furieux de l'hypothèse avancée par Bruno Retailleau, qui était que lui y aille sans demander son avis à personne, c'est David Lisnard.
Oui, tout à fait.
Le maire de Cannes, qui est justement un petit peu à l'extérieur de la famille LR, un petit peu à l'extérieur, mais qui est un petit peu en, tout en étant proche, quoi. Donc, il a une ligne un peu plus souple, peut-être, que celle de Bruno Retailleau.
Oui, alors, ce qui est très étonnant, c'est que je vais montrer, hop, à la caméra. Dans Valeurs Actuelles, cette semaine, nous avons une interview croisée entre David Lisnard et Robert Ménard, dans lequel il parle précisément de ce sujet-là.
Ouais.
Où Robert Ménard l'attaque en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites encore chez LR ?» Et David Lisnard essaye de justifier, puis à la fin, il dit « C'est vrai que parfois, quand on voit à quel point ce mouvement peut se foyer, on se demande pas si on prêche un peu dans le désert. »
Et le lendemain,
le jour de la publication, il dit « Écoutez, vraiment, je m'en vais.
Ouais. »
C'est très ça, ce qui est très intéressant, cette séquence, parce que vous l'avez regardé
sur le long terme,
c'est que quand vous regardez l'extrait de l'interview, on a l'impression qu'il n'avait pas du tout prévu de dire ça, et que c'est Apolline, je crois que c'est Apolline de Nerf, hein, en face, c'est presque elle qui le pousse dire ça, quoi.
Ouais.
Elle repose la question plein de fois, et à la fin, il finit par dire « Ouais, bon, mais merde, quoi. » Donc c'est,
ouais.
Ça en dit assez long sur le... Et d'ailleurs, il dit bien après, il faudrait que j'aille voir Bruno Retailleau, quoi.
D'ailleurs, ils se sont leur entrevue est repoussée, je crois, à mardi prochain.
Absolument.
Mais pour cesser le temps peut-être de changer d'avis, de renégocier un petit peu, enfin en tout cas. Ce qui est certain, c'est que les deux sont sur le même créneau de toute façon.
Absolument.
Donc à un moment donné, ils pourront pas être tous les deux candidats.
Il a le problème que si on dessine un peu le spectre politique, il se superpose les Républicains et Nouvelle Énergie. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en a pas un qui est plus à droite ou plus à gauche que l'autre. Ils ont exactement le même électorat, juste l'un un peu plus étatiste et l'autre un peu plus libéral. David Lisnard peut essayer de quitter le parti et de dire je vais faire mon aventure tout seul, mais il peut pas. Enfin, il ne peut pas. Ça n'est pas mathématiquement possible.
Ouais. Très bien.
Bon, et pardon, je termine juste là-dessus. David Lisnard, il peut. David Lisnard, il peut critiquer autant qu'il veut l'inconstance, les changements d'humeur des Républicains à très juste titre, qui se regarde lui-même dans une glace aussi. En quelques jours, il est passé de je me fais prendre en photo avec Eric Ciotti, le candidat soutenu par le RN à Nice, en disant c'est mon ami, dire il faut surtout pas jamais bosser avec le RN.
Et en incitant Eric Ciotti à se libérer du Rassemblement National.
Au bout d'un moment, David Lisnard, je sais qu'il y a beaucoup de gens à droite qui, pour une raison qui m'échappe complètement, sont fascinés par David Lisnard. Écoutez, la plus-value de David Lisnard sur Bruno Retailleau, il est peut-être un peu plus charismatique.
Juste un dernier truc, c'est que le seul intérêt de la primaire ouverte, c'est de rassembler tous les électeurs de tous ces partis derrière un même candidat. Or, comme on l'a dit en début d'émission, les Français s'intéressent plus du tout à ça. Donc en fait, ça peut servir à ramener trois personnalités et leur maigre appareil politique, mais ça ramènera absolument pas les électeurs qui n'ont pas envie.
Merci beaucoup messieurs. Dans quelques minutes, nous accueillerons Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et maire de hier. En attendant, vous avez été nombreux à nous écrire. Second tour des présidentielles, comme dit Jean-Claude Duz dans Les Bronzés font du ski, qu'un triste sourire, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher, c'est pas faux, et c'est peut-être en partie la ligne de conduite chez LR. Le message d'un auditeur qui, à propos des municipales à Paris, et on en parlait pour la primaire, je trouve qu'à Paris Sarah Knafou a fait une excellente campagne. Je trouve également qu'il est dommage que Radio Courtoisie n'en ait pas beaucoup parlé. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je trouve qu'on a quand même pas mal parlé sur cette antenne. Valeurs Actuelles, il y avait même consacré un numéro, mais d'ailleurs Sarah Knafou sait qu'elle est la bienvenue sur cette antenne, elle est la bienvenue dans cette émission, donc si un jour elle veut venir directement s'adresser aux auditeurs de Radio Courtoisie, bien évidemment un micro lui sera proposé, comme toute personnalité politique d'ailleurs désirant s'adresser à vous chers auditeurs, Jean-Luc Mélenchon compris bien évidemment, il est le bienvenu lui aussi. Nous avons ensuite plusieurs remarques. Vous avez même envoyé des questions avec beaucoup d'avance adressées à Nicolas Dupont-Aignan, donc on les a bien mises de côté et on les lui posera directement lorsqu'il sera là. Merci à vous, chers auditeurs, en tout cas, d'être toujours aussi fidèles à cette émission.
Pardon, Marc, je crois que vous n'avez pas lu une des questions reçues par les auditeurs.
Laquelle? Ah, celle sur l'Algérie, vous voulez dire?
Non, je pensais à une qui parlait de vous, je crois.
Ah, celle où on disait que j'avais une diction absolument extraordinaire, voilà, c'est bien cela. Oui, pardon, chers auditeurs, Marc Hainaut, pourriez-vous parler moins vite? On ne comprend pas que la moitié de ce que vous dites, merci. Écoutez, au moins, je suis sûr que vous entendiez la meilleure moitié, cher auditeur, et c'est le plus important. Le temps que Nicolas Dupont-Aignan arrive, petit message de votre radio, petite pause, et puis on revient vers vous très très vite. À tout de suite.
Aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. We'll be right back.